RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On a un GG, c'était match là dans la dernière partie des GG là qui arrive tout à l'heure à 11h20. On a un GG, c'était match autour du Covid et la 9e vague. Vous avez vu, on commence à nous alerter de nouveau sur les contaminations, 35 000, 40 000 par jour. Visiblement, la phase est très 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 ascendante. Les spécialistes nous disent, les amis, c'est le relâchement total. Ce serait bien de commencer à reprendre les gestes barrières, bien vous laver les mains et éventuellement remettre le masque dans les transports. Alors, on va en discuter ensemble, calmement, tranquillement, sereinement, à 11h20 dans le GG7 et match. Faut-il remettre le masque dans les transports?
Sereinement, ça va être difficile.
On a une équipe, oui, avec Marty et Giro. Une équipe, non, avec Sarah et Olivier. Mais ça, c'est à 11h20.
Ah oui.
Là, pour le moment, c'est le à vous de choisir. Attends, le à vous de choisir. Avant de vous dire quel sujet a été choisi, moi, je voulais justement, j'ai choisi vous parler 30 secondes de ça. C'était juste, voilà, pour signaler la sortie 6 ans après du nouveau single du prochain album de Metallica. Ouais, ça s'appelle Lux Eterna. Vas-y, envoie un peu Antoine. Non mais en plus, ils ont déjà prévu leur date de tournée sur 2 ans.
Chouette.
Tu seras là.
Ils vont faire le Stade de France. Non, regarde comment ils vont innover.
En déambulateur, ça finit.
Chaque ville aura 2 dates et chaque concert sera différent. Mmh. Voilà. Donc ceux qui auront un concert
le lendemain,
faut que j'y sois parce qu'il sera complètement
c'est
différent.
Belle opération marketing.
Et bien sûr.
Et tu seras là.
Je pense que je vais y aller, même si je suis pas fanat du Stade de France. Bon allez, on y va pour le vrai. À vous de choisir.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
On vous avait proposé 2 sujets de discussion. L'explosion des paris sportifs en ligne, est-ce que c'est dangereux? Ou la pédopornographie avec le maire Deschenon qui ne démissionnera pas avant son procès? Vous avez voté pour cette histoire Deschenon en Côte d'Or. Le maire qui a décidé de ne pas démissionner avant son procès. Maire qui a été pris dans le vaste coup de filet anti-pédocriminalité.
Oui, il fait partie des 48 hommes qui ont été interpellés mercredi dernier dans toute la France par la police judiciaire dans le cadre d'une vaste opération pour lutter contre la pédopornographie. Il est soupçonné d'avoir massivement consulté des contenus pédopornographiques. C'est pas des gens qui, par hasard, sont tombés sur un site qu'il faut pas regarder. C'est-à-dire que massivement, ça veut dire que voilà, on a la preuve qu'ils ont vu, ils ont téléchargé et parfois même ils ont diffusé ces images. Le maire Deschenon attend son procès qui est prévu au mois d'avril et en attendant, il refuse de démissionner. D'ailleurs, la loi est avec lui, il n'est pas obligé de quitter son poste de maire. Le problème, c'est qu'on est dans un petit village de 800 habitants, tout le monde se connaît. Demi Clotte, c'est vraiment la personne qu'on veut plus voir à la mairie. Il y a eu même une manifestation d'habitants de la commune avec cette pancarte « Maire perversion démission ». Ils ne veulent plus le voir, le maire, ici, d'autant plus que le maire, semble-t-il, habite à quelques mètres de l'école. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez les habitants ou est-ce que le maire, il a raison de défendre à la fois la présomption d'innocence puisqu'il n'a toujours pas été jugé et le fait qu'il a été élu et qu'il peut aller jusqu'au bout de son mandat.
Monsieur Didier Giraud.
Alors, je vais faire une petite précision, c'est que je m'exprime alors contre ou pour Dominique Clotte, mais je parle pas de Dominique Clotte, le maire de Guignon à 13 bornes de chez moi, parce qu'il se trouve que le maire de Guignon s'appelle Dominique Clotte.
C'est
un homonyme, quoi. Non, je trouve ça quand même. Ouais, un peu fort de café, parce que, comme tu l'as dit, Olivier, on n'est pas sur une petite affaire où, par hasard, tu te retrouves sur un site que t'avais pas prévu, quoi. On est sur quelque chose d'avéré, et cette attitude jusqu'au boutiste fait qu'il est sûr d'être condamné à la fin, quoi. Moi, je trouve que c'est ça qui est le pire, c'est qu'il est sûr d'être condamné, puisqu'il dit, je vais aller au bout de mon mandat, on verra après, quoi. Je comprends que les habitants soient agacés, voire inquiets, quoi, parce qu'il habite au ras de l'école.
Il est élu
jusqu'en
2026, comme tous les maires.
Mais c'est ça, c'est que son mandat.
Même condamné, il pourra rester maire.
Il s'arrête pas dans 2 mois, quoi. Et je vois pas comment, comment la loi peut tolérer ça, en fait, quoi.
Pour comment, l'instant, il est présumé innocent, hein, en fait. Il est sous contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il est soumis à des interdictions et obligations. Si le contrôle judiciaire est révoqué, il pourra aller en détention provisoire. Pour l'instant, il est présumé innocent. Ensuite, une fois qu'il y aura son procès en avril, c'est ça, avril, il peut aussi, dans un délai de 10 jours, interjeter appel. Et là, il part en appel et on est reparti pour un tour. Donc,
de nouveau, la présomption d'innocence.
Ouais. Jusqu'au bout. Donc, en fait, il peut rester présumé innocent.
Il peut finir son mandat tranquille, quoi. C'est ça que ça veut
vraiment
dire.
Vraiment tranquille. Après, il y a une chose qui m'interpelle, c'est le secret de l'enquête. Vous dites tous, il a reconnu. Bah, quid du secret de l'enquête? Vous n'êtes pas censé le savoir, en réalité. Donc, ça veut dire qu'on a eu un raté de ce côté-là aussi. Oui.
Le parquet a communiqué. Hein.
Donc, le procureur a donné
ces informations.
C'est très malaisant, ce truc-là, cette affaire, quoi. C'est très malaisant. D'abord, est-ce qu'il a un seul soutien, ce maire? Est-ce que même dans son équipe, il y a des gens qui disent oui, c'est bien qu'il continue?
Je veux dire par là que
il décide de rester, mais est-ce qu'il est en capacité véritablement de gérer sa ville s'il n'a plus aucun soutien autour de lui?
Alors ça veut dire que si le conseil démissionne en totalité, il y a forcément
des logiquement.
Mais
peut-être que le conseil le soutient. Enfin, t'as le problème.
Mais au-delà,
dans ces petits villages, quand t'as un maire, t'es content de l'avoir.
Mais ça c'est.
Après, c'est quand même grave. C'est pas.
Voilà, on est quand même dans une affaire qui est du domaine de l'exceptionnel, avec des faits qui, s'ils sont avérés, sont des faits effectivement graves. Et n'importe quel député de la nation, n'importe quel ministre se mettrait de côté par rapport à son activité politique. Je pense pas qu'on ait l'exemple à très haut niveau. De faits qualifiés de pédophilie, mais si c'était le cas, je peux t'assurer à mon avis qu'aucun ministre.
Et ben moi je l'assure, et ben tu l'estimes.
Là parce que toi tu estimes que c'est plus grave que d'autres délits.
Entre les infractions.
Tu fais une hiérarchie entre infractions, mais il y a pas de règle, c'est-à-dire que il y a
sur le plan juridique pur, il y a pas de règle. On est d'accord.
Balladur avait dit il y a fort longtemps, hein, pour les plus jeunes, hein, c'était un premier ministre des années 90, il avait dit tout ministre mis en examen doit démissionner. Cette règle n'est plus appliquée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a changé les règles. On peut avoir donc des mises en examen. D'autres qui démissionnent alors qu'ils sont pas encore mis en examen. On voit bien qu'il n'y a pas de règles. Est-ce que c'est pas la conscience de chacun? Est-ce que c'est pas ce maire lui-même qui doit se dire je ne peux plus décemment représenter ma ville?
Je crois que pour reprendre ce qu'a dit le parquet durant sa garde à vue. Les deals auraient reconnu une partie des faits. Selon le parquet de Dijon, des fichiers, images et vidéos mettant en scène des mineurs de 5 à 15 ans dans des poses suggestives ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes ont été retrouvés en sa possession.
Là, mais tu peux pas rester maire quand on te suspecte de ça, c'est impossible.
On peut aussi se dire que peut-être il n'a pas toute sa... Alors, on peut aller sur le terrain de l'irresponsabilité pénale, mais ça sera...
Tu peux pas mener une ville. Ça fait combien d'habitants, cette ville?
800.
Mais même peu importe la taille, mais tu ne peux pas mener une ville. Tu as d'autant plus d'importance dans une ville de 800 habitants. Tu es vraiment le personnage central. Tu es le personnage qui donne l'exemple. Tu es le personnage qui va statuer sur des choses, même sur le plan juridique. Quand t'es maire.
Non, mais donc je pense que la seule solution.
Compétence d'office de l'OPJ, en plus.
Mais oui,
la seule solution dans ce cas-là, en fait. C'est que le conseil municipal ne le soutienne pas et démissionne en masse. Il n'y a que ça pour recréer des élections. C'est que le conseil municipal démissionne en masse.
Moi, j'entendais une habitante hier sur BFM TV. Il y a deux choses. Il y a effectivement, on ne peut pas être représenté par ce personnage, mais aussi, il y a le côté peut-être dangereux de.
Parce
que l'habitante disait, quelqu'un qui est capable de télécharger, diffuser. Des scènes mettant des enfants dans des relations sexuelles avec des adultes, est-ce qu'il n'est pas passé à l'acte déjà ou est-ce qu'il n'a pas cette pulsion de passer à l'acte?
Tu peux te poser la question.
Il y a une école à 20 mètres. Les parents, on peut imaginer que les parents des enfants n'ont pas envie de croiser ce type sur le chemin.
Après, ça serait intéressant de savoir ce qu'il a dans son contrôle judiciaire. Parce que par exemple, il y a interdiction d'aller dans tel lieu, etc.
Est-ce qu'il pourrait être interdit d'être dans sa ville, tiens?
Bah là, c'est compliqué parce qu'il est maire.
Oui, mais ça serait peut-être on réglerait le problème.
Est-ce qu'on peut lui retirer
ses pouvoirs d'OPJ?
Hier, l'habitante disait qu'il ne savait pas où il était.
Il est dans sa cave.
Donc visiblement, il a disparu. Après, il y a un élément qui peut entrer en ligne de compte, c'est le trouble à l'ordre public.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans sa situation, au regard de la tension qui monte dans la ville, de la colère, de l'exaspération des habitants, il peut y avoir un trouble à l'ordre public.
Avec le préfet,
et là,
ça.
Voilà. Et là, c'est le préfet qui décide.
Moi, à mon avis, c'est plus simple si le conseil municipal se prend en main et démissionne en bloc.
Mais attends, parce que le conseil municipal, vendredi, il y a eu une réunion du conseil municipal. Et il y a le troisième adjoint qui est sorti, parce qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine d'habitants qui manifestaient devant la mairie. Le troisième adjoint est sorti à l'issue du conseil municipal en disant, on a posé la question à monsieur le maire. Monsieur le maire a dit qu'il ne quitterait pas ses fonctions. Il ne démissionnera éventuellement qu'après le procès et s'il y a
tous
condamnation.
Tous les autres conseillers municipaux
ça démissionnent. Puisque le troisième adjoint est déjà sorti vendredi alors qu'il y avait une réunion du conseil municipal et tout ça était déjà, les faits étaient déjà sur la table.
Donc, ça veut dire qu'il a des soutiens.
Enfin, vous avez l'air de tomber d'eau, mais au gouvernement, soutiens. Des gens qui sont mis en examen pour des faits qui sont pas forcément des violences conjugales, des affaires d'agression sexuelle. Enfin, vous dites quoi?
Oui, mais là, le maire, il a reconnu une partie des faits, là.
D'accord, pour l'instant, il n'a pas été jugé.
Oui, enfin, pardon, Adrien Quatennens, je prends un autre exemple.
Il a giflé.
Adrien Quatennens a reconnu avoir frappé sa femme, il est toujours député. Bon, voilà.
Et, j'entends ses
collègues et amis dire qu'il pourrait.
Oui, enfin,
il est toujours député. Pardon, mais il est toujours représentant de sa circonscription.
Il n'a pas démissionné. Hein.
Enfin, il est en arrêt maladie. Oui, il va revenir à l'Assemblée.
Et c'est pas le seul.
Valérie qui nous appelle, une fidèle des GG qui nous appelle des Alpes-Maritimes.
Bonjour Valérie.
Oui, Valérie, vous êtes avec nous. Allez-y alors. Quelle est votre réaction, Valérie?
Bah, écoutez, c'est un peu mitigé, mais je rejoins un petit peu ce que disait Sarah, c'est ça?
Oui.
Dans le sens où, effectivement, le problème, c'est que vous avez tellement de super exemples au niveau du gouvernement, entre ceux qui ont été mis en examen, bon, ceux qui l'ont pas été, où il y a eu des... Dans le cas d'Armanin, le mot m'échappe, il a eu un non-lieu.
Il y avait Damien Abad aussi qui était incriminé.
Ces exemples-là, moi, ce qui me choque et ce qui m'ennuie un peu dans l'histoire, c'est justement le rapport des politiques avec les citoyens. Quand on voit des exemples comme ça, ça ne vous donne pas du tout envie de continuer à croire ces personnes et d'aller se lever pour aller voter pour quelqu'un, quoi. Voilà, c'est ça qui m'ennuie le plus, parce que ça, c'est encore une perte de confiance au niveau de nos élus. Et là, effectivement, ce maire-là donne un très mauvais exemple en restant à son poste. Mais, comme je le disais dans le message que j'ai envoyé, malheureusement, on n'a pas des exemples très positifs au niveau du gouvernement. Voilà, donc force d'avoir ce type d'image... Bien évidemment, ça donne des situations très compliquées.
Puis ils démissionnent pas en plus, donc on a l'impression que ça les touche même pas.
Non, mais j'entends ce que vous dites. De là à dire que ça réagit sur tout le village, enfin, c'est.
Ou sur toute la classe politique.
Tous les codes de rien ne sont pas des pédophiles, enfin, c'est
parce qu'on a dit, Didier.
Non, mais la classe politique, on sait que dans la classe politique, il y a un pourcentage de brebis galeuses. On sait que c'est ça qui est. D'abord et avant tout une machine à abstention, n'empêche que derrière ça, enfin, on bute toujours sur la même chose. Il faudrait que ces gens-là soient jugés. Quand les faits sont établis, il faudrait qu'ils soient jugés assez rapidement pour qu'on tranche sur leur avis. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été accusés, alors sur des choses moins graves, mais à tort. On se rappelle pas qu'ils ont été innocentés, quoi. Hein. Il y a des affaires autour des politiques financières. Il y a des gens qui ont été innocentés. On se rappelle pas. On se rappelle que de l'affaire médiatique qui les a emportés, quoi. Dominique Baudis.
Ouais. Comme ça. C'est la loi du genre. Ouais.
Gérard Longuet. Enfin, il y en a d'autres, quoi. Eric Woerth. Il y a des gens qui.
Oui, mais là, on n'est pas sur le même cas de figure. C'était des allégations qui étaient sorties dans la presse. Là, on a quelqu'un. Parce qu'en plus, c'est un outil informatique qui a permis de remonter jusqu'à lui, jusqu'à son ordinateur. Et là, si tu veux, t'es pris, comme disait l'autre, la main dans le sac, quoi. Tu vois.
Et ça aurait pu durer longtemps.
On peut pas tout mélanger.
C'est ce que je dis.
Les faits ont été avérés. Bien sûr, il faut attendre la présomption d'innocence. Mais enfin, moi, le terme de présomption d'innocence, bien entendu, mais quand quelqu'un avoue. Déjà, c'est pas la même chose que quand quelqu'un nie les faits. Quand les faits sont avérés parce qu'on a traqué un site et qu'on l'a vu sur un site, alors après, il pourra toujours dire qu'il y a été qu'une fois, machin, etc.
Il a été piraté.
Voilà. Ou qu'il reconnaîtra qu'une partie des faits. Mais, et après, c'est la représentation. C'est est-ce que quelqu'un peut continuer à représenter une ville, être en contact peut-être d'enfants aussi. Enfin,
oui. Valérie, ça doit être la conscience.
C'est un problème quand même.
Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je trouve qu'il n'y a pas tellement de débat.
Allez-y.
Oui, moi je dis là-dedans aussi, il y a un gros problème de morale. Voilà.
Bah, évidemment.
Il y a déjà, voilà, si déjà les hommes politiques de temps en temps se remettaient un petit peu en question, se regardaient dans un miroir, comme dit un proverbe anglais, hein, il faut se regarder dans un miroir tous les jours. Est-ce que j'arrive à supporter mon reflet? Oui. Eh bien, s'il y avait un petit peu plus de morale, je pense que ça n'en ferait que mieux. Voilà, c'est tout.
Merci Valérie d'avoir été avec nous.
Au-delà de ça, en faisant ce geste, il remet en quelque sorte une pièce dans le. Il relance encore l'affaire, quoi. Je veux dire, pour ce village que personne ne connaît.
Oui.
C'est le village
c'est le village du pédophile, donc ça retentit effectivement sur toute la population. Le fait de se mettre en retrait tout de suite, évidemment, on va continuer à parler de l'affaire, mais on en parlera moins que là où on parle aussi du geste du maire.
Alors que là, on va en parler à son procès.
C'est bien, la Côte d'Or, Émile Louis, le maire.
Louis, c'était dans
le Royaume.
C'est la même chose. Non,
il connaît rien à la géographie.
C'est pas le même coin.
Émile Louis, c'était le nord de Lyon, et là, t'es dans le sud Côte d'Or. Ça veut dire que entre les deux, il y a 250 bornes. Donc,
oui, c'est la même région. C'est tu passes par, c'est pareil. Oui. C'est la Bourgogne.
Tu sais quoi?
C'est la Bourgogne.
Un jour, il faudrait faire un quiz géographie à Alain Marshall.
Et on va bien rigoler.
En même temps, quand tu traverses la France en avion,
je
sens. Pas compte,
c'est quoi la France?
C'est comme toi, Alain.
C'est quoi la France? Je sens une demande pressante d'Olivier. Anaïs, puisque tu prépares tes quiz, pour la semaine prochaine, quand Sarah sera là, il faut que tu nous prépares un quiz géographie pour Sarah et moi.
Sur les départements, les villes.
Donc tu nous fais ça.
C'est compliqué, là.
Et tu mets les Alpes-Maritimes de côté, bien sûr.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le GG 7 et match qu'on va vous demander d'arbitrer au 32-16, justement. La neuvième vague, moi je ne sais même plus à combien de vagues on en était. La neuvième vague Covid,
la vague dans la vague,
monte, arrive. Apparemment, c'est une vague bien montante, d'après ce qu'on dit.
On est à Biarritz?
Possiblement.
La huitième, c'était Nice.
Je vais regarder la carte.
C'est pas dans Lyon.
Allez, sérieusement, la neuvième vague, apparemment bien montante. Est-ce qu'elle doit nous pousser à remettre le masque dans les transports? Oui ou non? GG7 et match à suivre.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, avec aujourd'hui Monsieur Marty, Jérôme, nous sommes avec Docteur, Jérôme Marty, nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur, et nous sommes avec l'avocate, Sarah Salman. Tiens, donne-moi ton portable, Sarah.
Oui, parce que j'en peux plus, hein. Je fais la police depuis tout à l'heure.
Elle le fait à la pub, hein.
Merci vrai. De me défendre.
Et tu sais que la photo, regarde la photo de son smartphone, on parlait du chien tout à l'heure.
Ah oui.
Et voilà.
Est-ce que vous pouvez zoomer, s'il vous plaît, sur...
C'est lui qui a des cadeaux.
Pour le chien.
Mais l'écran était sale. Hein.
Allez-y. Pour Triomphe, voilà, le chien de Sarah Salman. Triomphe.
C'est là qu'apparaît un message.
Celui à qui...
promettant.
Mon cœur s'est serré, en fait, quand t'as pris le téléphone.
Celui à qui tu envoies...
Parce qu'à chaque fois que quelqu'un regarde mon téléphone, c'est toujours à ces moments-là que j'ai des messages.
Voilà, pour ceux qui sont devant RMC Story, voilà Triomphe. Le chien de Sarah Salman, à qui tu offres? Tu as offert quoi déjà? Une gamelle Karl Lagerfeld, c'est ça?
Oui.
C'est quoi comme marque?
Le chien. Ne le mets pas sous la patte du mien. Hein.
Le chien, c'est un chihuahua.
C'est un chihuahua.
Et ça, c'est là où il fait son dodo?
Alors, il en a plusieurs, mais oui.
Et c'est un
trône.
C'est un trône de marque, ça aussi?
C'est un trône.
Il fait ce qu'il veut, c'est le boss.
Ah, c'est le roi?
C'est le roi.
Ouais. Et ses besoins, il les fait où?
Pas dehors.
Et il en fait pas, c'est un roi.
Bah oui, c'est un chien en fait.
Mais ce genre de chien ne fait pas de besoin.
C'est ça.
Tandis que celui de Marty,
c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dangereux.
Celui de Marty fait un camion ben quand il fait ses besoins.
Moi, mon chihuahua pèse 2,5 kg.
Il nous l'avait montré, Jérôme.
Ouais.
C'est un colosse.
Et le tien, il fait combien de kilos déjà?
70.
Ouais. Il pèse plus lourd que nous.
Ben
pas que moi.
Toi. Allez, on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match. Coronavirus.
C'est pas sa meilleure chanson.
Non.
Connard de virus. Enfin, il est toujours là à nous pourrir la vie, hein, ce fichu Covid.
Ah, je croyais que c'était Renaud.
C'est
Renaud.
C'est pour ça que j'ai enchaîné.
C'est bien, on a perdu.
Ce fichu virus.
Le cri du cœur.
À chaque fois, vous connaissez la death list. C'est la liste des morts prévisionnelles de l'année en cours. Vous connaissez?
Ah non.
Mais ouais, Renaud, ça fait 10 ans qu'il y est.
Et
il est toujours là.
Non, mais il est
costaud. C'est une liste des morts qu'on envisage. Et Renaud, ça fait vraiment 10 ans qu'il est dedans.
C'est sympa cette liste.
Tu te vois dedans, tu seras merde. Donc, ça fait un moment que les autorités sanitaires, les nouvelles autorités sanitaires et les médecins experts du Covid pousse de nouveau pour dire, écoutez, il faudrait, on a pris un peu de bon temps, mais là, il faudrait reprendre les choses en main, être sérieux, parce que la neuvième vague est là, elle monte. On a non seulement la grippe, mais on a la gastro et on a le coronavirus, le Covid, avec, on arrive quasiment à 50 000 contaminations par jour. Donc, remettre, et quand on connaît en plus l'état de l'hôpital, remettre le masque dans les transports. On a une équipe oui, une équipe non. L'équipe oui, Didier Girôme. L'équipe non, Sarah et Olivier. C'est l'équipe oui qui va prendre la parole. Il faut remettre le masque. 60 secondes au doc, Marty McFly.
Ben, la problématique, tu l'as dit, la problématique, c'est l'état de l'hôpital, c'est l'état de la médecine de ville. Les deux vont très mal. Et on est à un moment où on a à la fois une épidémie de grippe qui est en train de monter très fortement. Une épidémie de Covid avec un R qui est déjà à 1,2, ça veut dire qu'une personne en contamine 1,2, donc on est en expansion. On a une épidémie de gastro-entérite qui va débuter et dont on pense que les gens ne se lavant plus les mains, elle va fuser. On a la bronchiolite qui tape très fortement les réanimations pédiatriques. Et quand tu rajoutes ces quatre maladies, ben on a toutes les conditions remplies pour rentrer d'une zone de fragilité à une zone dangereuse. Donc il faut qu'on joue collectif. Jouer collectif, ça veut dire cibler les endroits qui sont à fort risque de contamination. Et c'est les transports en commun. Les transports en commun, on est les uns sur les autres. Il n'y a aucun appareil de traitement de l'air intérieur dans les transports en commun. Et donc, on met le masque. On le met le masque non pas pour se protéger soi, mais bien pour protéger l'autre. On ne le dira jamais assez. Le masque, on le porte pour l'autre. Bon. Une minute pile. Messieurs, parfait. À vous.
Magnifique.
Alors, Jérôme, même si tu es médecin, tu as oublié l'essentiel. Le masque, c'est ce qu'il y a de plus sale. Je rappelle, il y a une étude de l'IFOP qui a été faite en 2020, selon laquelle un Français sur quatre ne change pas de slip tous les jours. Donc, qu'en est-il du masque?
Ouais, mais moi, je mets pas mon slip sur ma tête.
J'étais l'autre fois à l'aéroport de Nice.
Attention à ce que tu vas dire.
J'étais à l'aéroport de Nice, mais c'était au moment de l'été, tu sais, quoi. Fallait mettre son masque. Et bon, moi, j'avais pas mon masque, comme d'habitude. Mademoiselle, votre masque. J'en trouvais pas, j'ai pris un vieux truc au fond de ma poche, je l'ai mis.
Voilà. C'était un slip.
Non,
nous voilà rassurés.
Mais comme
masque,
tu le mets pour protéger l'autre, c'est pas grave.
Alors, juste une bonne nouvelle dans les transports, c'est que bon, alors je les prends pas, mais ça j'ai quand même un avis. Ça va permettre de camoufler les mauvaises odeurs, et ça, c'est positif. Idem pour les gens qui sont un peu moches, un peu vilains, ça permet de cacher. Donc ça, c'est pas désagréable. Mais l'utilité en elle-même, quand le masque que tu as sur toi est encore plus dégueulasse qu'un sous-vêtement, je vois pas l'intérêt.
Mais non, c'est l'écran.
Non, mais ça, sincèrement, Jérôme.
Oui.
Ça suffit.
Un peu de liberté. Oui,
non, mais ça suffit. Ça suffit. On va pas nous faire psychoter tous les hivers parce que la grippe est là comme tous les hivers, parce qu'il y a la gastro, la bronchiolite, etc. On a créé une peur de tous les virus maintenant. Alors avant, on avait peur du Covid et on peut le comprendre parce que c'était un nouveau virus.
Finir.
Mais maintenant, on nous fait peur des vieux virus. C'est-à-dire que maintenant, la gastro, oh là là, la gastro arrive. Mais là, oui, comme chaque hiver, la bronchiolite, terrible. Oui, comme chaque hiver, j'ai quatre enfants.
Rhume.
Tous mes enfants ont eu la bronchiolite chaque hiver. Bah oui, alors, parfois c'est plus ou moins grave. Tu fais de la kiné respiratoire. C'est la vie. Arrêtons. Moi, je comprends. Arrêtons de faire psychoter la population.
Mais c'est juste
le seul problème, parce qu'il faut être sérieux, le seul problème, c'est la vaccination. Et là, peut-être qu'on sera d'accord, des seniors. C'est vrai que la campagne de rappel au vaccin pour les seniors, elle ne fonctionne pas. Je regardais les chiffres. Seulement 36% des plus de 60 ans ont un parcours vaccinal complet et à peine 42% des plus de 80 ans. Ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait tous qu'avec Omicron, même vacciné, on se le refile. Ouais. En revanche, le vaccin protège des formes graves. Donc, au lieu de s'exciter sur le masque dans les transports, moi, je voudrais que Monsieur Braun, François Braun, qui arrête d'ailleurs de balancer des fake news, lance une grande campagne, campagne pour les seniors, pour leur dire, faites-vous vacciner.
Non, mais Olivier,
t'es d'accord sur le vaccin?
Mais on est tous d'accord.
Être que d'accord.
C'est ça,
on est tous d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est le problème. Mais c'est un petit, ça rejoint un peu le même problème. Parce que si on a cette perte de vaccin, d'appétence à la vaccination chez les patients âgés qui sont les cibles de cette maladie avec les gens fragiles, c'est qu'on a considéré le virus comme n'étant plus là, et on l'a passé par pertes et profits.
Mais oui, parce qu'on doit
normal,
apprendre à
vivre
avec.
C'est normal, on en a tellement parlé qu'on en avait assez.
Mais parce que, on sait ce que je veux dire, sera toujours là, le virus.
Ce que je suis en train, on n'est pas sur une obligation de port du masque. On est juste sur un geste civique dans certains moments de notre vie pour éviter de surcharger les hôpitaux. Pour éviter de surcharger une médecine qui aujourd'hui n'arrive pas à faire face à la demande de soins.
Mais c'est pas notre problème.
On n'y arrive plus.
Le problème de l'hôpital, mais c'est pas le problème des Français. français.
Mais si,
c'est
ça doit l'être.
C'est le problème de ceux qui gèrent l'hôpital.
C'est le problème de tout le monde.
Non.
C'est le problème de tout le monde. Éviter que les gens soient malades, c'est le problème de tout le monde.
On va pas nous faire culpabiliser à vie parce que les infirmières se barrent de l'hôpital. Ça, c'est le problème des autorités.
Personne ne culpabilise.
La parole à Didier Giraud.
J'ai rejoint le camp de lui parce que je trouve que ça simplifierait plein de choses dans les transports. Voilà.
Mais oui.
Moi, j'ai assisté à une scène sur le quai de la gare la semaine dernière.
Quelle gare ?
À Paris, avant de reprendre le TGV. Il y a aujourd'hui dans le TGV des gens masqués, des gens non masqués. Voilà. Et ça, ça crée des tensions. Ouais, ça je l'ai constaté.
Mais
parce qu'il y a des gens qui disent
oui,
qu'il faut masquer, machin.
Oui, mais alors ça c'est.
Non, mais je pense qu'aujourd'hui, en phase ascendante de l'épidémie, on a des masques disponibles. Ça n'a pas toujours été le cas en France. Remettre le masque dans les transports, c'est pas la fin du monde.
Rien ne t'empêche de le mettre.
J'entends.
Tu le mets ou pas?
Non, parce
que. Alors, mais qu'est-ce que tu parles?
Non, mais c'est pour ça que je te dis.
Mais c'est ça que je te dis. C'est pas ce que je fais.
Non.
Bah, t'as qu'à mettre
le tracteur.
Franchement.
Non, mais dans, le train ce matin, tu l'as pas mis.
Ça simplifierait tout s'il était obligatoire.
Mais réponds, tu l'as mis ce matin.
Didier, il attend que ça soit obligatoire pour le mettre. Lui-même, il se dit pas, tiens, je pourrais le mettre pour faire un geste.
Non, mais aujourd'hui, tu sais pas qui le met et pourquoi il le met et qui le met pas et pourquoi il le met pas. Le rendre obligatoire dans les transports, ça simplifierait. C'est tout.
Mais mets-le, toi, déjà.
Moi, ce que je sais, je suis pas malade, mon cher.
Mais alors, tu n'importe quoi.
C'est peut-être asymptomatique.
Mais bien sûr. Tiens, c'est rien. 50% des gens sont totalement asymptomatiques. Donc, du coup, le problématique de cette maladie,
obligatoire, ça serait plus.
La problématique de cette maladie, on le dira jamais assez, c'est que plus de 50% des cas, et tu l'as dit, Alain, sont asymptomatiques et donc ne savent pas qu'à un instant précis, ils sont contaminants. Or, tu ne sais jamais si la personne à côté de toi, elle a pas un problème immunitaire. Oui, elle devrait se protéger, mais peut-être elle le fait pas. Et donc, tu vas la contaminer.
Ben oui.
Je vous ai pris cet exemple déjà une fois. Quand tu roules en voiture, tu as une limitation à 90. Mmh. Tu vas respecter cette limitation parce que peut-être que tu as un tabanard, comme on dit chez moi, qui roule sans casque, qui va venir dépasser devant ta voiture et tu n'auras pas le temps de freiner et tu vas lui rentrer dedans. C'est le même problème. Tu pourrais très bien dire, il a qu'à se protéger aussi. Mais c'est toi aussi à protéger les autres.
Mais en fait, il faut faire primer la liberté individuelle. On a suffisamment d'atteintes aux libertés individuelles.
Non, mais ça, c'est pas obligatoire.
Mais toi, tu mets même pas ton masque. De quoi tu parles?
Je te parle de geste civique.
Tu parles. Il veut rendre obligatoire le port du masque.
Il
le porte à lui-même.
Mais non, mais dans les transports, moi, je trouve que dans les transports, ça serait plus simple.
Mais alors, mets-le au lieu de parler.
Mais je le mettrai quand ça sera obligatoire. Mais il y a quoi qui m'impose?
C'est difficile de débattre.
C'est vraiment français.
C'est très difficile de débattre.
C'est français, ça.
Non, mais en même temps,
je revendique,
messieurs dames, je suis pleinement français et je fonctionne comme un français. Et toi, tu vas me faire croire, Olivier Truchot, que t'es pas dans ce cas-là, toi.
Tu es mûr pour un régime autoritaire. Alors là, tu sais.
Petite question. Comment
tu fais
avec la moustache, avec le masque?
Ça l'écrase. Ça l'écrase toute, je ressemble à rien.
Est-ce qu'il
quand
faut
je le
désinfecter la moustache quand même ou pas?
Non, mais coupé.
Non, mais si tu considères encore une fois le masque, tu ne le portes pas comme un masque chirurgical,
non,
où tu vas te laver les mains, être stérile, etc. pour le mettre. Tu le mets comme un écran pour protéger l'autre et pour moins aérosoliser. C'est tout.
Si demain, tu vois, Olivier, pour répondre à vos attaques, si demain je viens ici parce que je tousse ou je sais pas quoi, ou j'ai pris un coup de froid, je mettrai le masque dans le train. Oui,
ça va très bien. Mais voilà. Donc,
tu peux être asymptomatique. Donc,
Jérôme, dans un an, on se retrouvera à la même table et on dira la même chose. Ah, la 27e
vague.
Omicron est là. J'écoute les spécialistes, ils disent la stratégie zéro Covid, ça n'a pas fonctionné. On pensait peut-être que ça disparaîtrait.
Ouais, mais du coup,
le virus ne disparaît pas.
Mais on est
donc,
tous d'accord.
Protégeons les plus fragiles, ceux qui risquent effectivement d'aller à l'hôpital et donc d'engorger l'hôpital. La vaccination, le masque ne protège pas. On peut tous attraper le virus avec le vaccin. En revanche, ça protège les plus faibles.
C'est la mi-temps. Alors, faut-il remettre le masque dans les transports avec les gastro, les bronchiolites, la grippe et le Covid 9e vague? Oui ou non? Oui ou non? Attention. Dans 3 minutes, vous saurez.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Alors, est-ce qu'on remet le masque dans les transports avec cette nouvelle vague Covid qui arrive? Oui ou non? On a une équipe, oui, emmenée par Jérôme Marty, le docteur Marty avec Didier Giraud. Une équipe, non, avec Sarah Salman et Olivier Truchot. Et à votre avis, qui prend l'avantage? Réfléchissez encore 5 secondes. Est-ce que c'est l'équipe oui, c'est l'équipe non? Est-ce que les gens en ont marre? Attention, résultat de la consultation. Je rappelle qu'on est à la mi-temps, il nous reste 10 minutes de discussion. C'est parti. Oui ou non, le Mazan et Transport. C'est voilà. Un non, 61%, 39%. Et maintenant, on va faire intervenir Benoît.
Encore un effort, messieurs. Bosser un peu, là. Faut bosser ces sujets, hein, quand on vient.
Benoît nous appelle de la Haute-Vienne.
10 ans de médecine pour arriver à ça.
Bonjour, Benoît.
Salut les grandes gueules.
Alors équipe bonjour, oui ou équipe non?
Ah ben équipe non, à un moment donné, c'est bon, il faut arrêter les conneries. Ça fait deux ans qu'on nous casse les couilles avec les... Pardon, avec les...
On casse les pieds.
Ça nous casse les pieds. On infantilise les Français pour leur faire passer la pilule, alors que bon, ben clairement, c'est que l'État fait pas son taf. Il y a plus de soignants. Tout est en PLS et on dit ah, ben,
tout est en PLS. Vous avez dit ah j'adore.
Ah oui, ben oui, tout est en PLS et puis c'est la faute des Français qui mettent pas le masque.
Tu as compris, Didier?
T'es d'accord avec ça?
Non, tout est en PLS. Tu as compris?
En position latérale de sécurité.
Mais oui, je sais ce que c'est que la PLS, il n'y a pas le problème.
Ce que vous dites, non, Benoît,
ce que je vais vous dire, moi, Benoît, c'est que, à un moment donné, monter dans un transport où il y a une personne sur deux qui porte le masque, avouez que c'est quelque chose de bizarre. Et c'est pas une règle claire. Voilà, c'est tout.
On va continuer combien de temps?
Chaque année, donc,
les
alors.
Français. On va continuer combien de temps?
Quand il y aura une
Français. À l'époque où le masque, il était obligatoire partout, c'est pas pour ça que ça réduisait les contaminations. Là, on parle de vaccin.
Bien sûr que si.
Ça réduit vachement les contaminations.
Non, mais vous comparez, monsieur, vous comparez un écran à un vaccin. Le vaccin, quand il a été fait sur la souche sur laquelle il a été fait, le vaccin, là, il protégeait grandement contre les contaminations. Il a perdu petit à petit son pouvoir de protéger contre la contamination quand on est passé de variant en variant, de variant en sous-variant, etc., etc. Il protège toujours contre les affections graves et c'est pour ça qu'il faut se vacciner.
C'est plus important que le masque.
Mais le masque est une protection mécanique.
Les projections anglaises annonçaient plus de 500 000 morts. Faut arrêter, il n'y en a pas eu 500 000. Et tous les
mais temps, monsieur, évidemment, on a, heureusement, vous avez eu tout un tas de choses qui nous ont fait à tous souffrir. C'est-à-dire qu'au départ, quand on ne savait rien sur ce virus, que les organismes étaient des organismes natifs vis-à-vis de ce virus, on a été obligé de mettre en place des choses qui nous ont tous profondément marqués, comme le confinement, etc., l'obligation du port du masque, toutes ces choses-là, qui ont fait que, fort heureusement, on n'en est pas arrivé à ces chiffres-là. Actuellement, on est à plus de 6 500 000 morts au niveau mondial. On est à plus de 155 000 en France. Heureusement qu'on n'a pas rien fait. C'était quoi votre idée? C'était de tout laisser faire et tout laisser ouvert? C'était ça l'idée?
Je vais prendre un exemple. Haïti, 1,4% de la population vaccinée, 800 morts. Il sert vachement le vaccin, ça c'est clair. Et puis j'ai une petite question, monsieur Marty. Normalement, quand vous intervenez à la radio, vous ne voudriez pas dire si vous avez des conflits d'intérêts ou quelque chose.
Je vais vous mettre à l'aise tout de suite là-dessus. Je n'ai strictement aucun conflit d'intérêts, zéro walou. La seule émission qui me rétribue, c'est les grandes gueules où je suis chroniqueur. Toutes les interventions sur les plateaux sont gratuites et sur mon temps de travail. Et mon syndicat que je préside a l'honneur d'avoir demandé le durcissement de la loi contre les conflits d'intérêts. Vous ferez vos recherches. Et donc, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas taxer de conflit d'intérêts, c'est bien moi, cher monsieur. Vous irez un petit peu cesser de répéter les idioties qu'on vous met dans la tronche. Mais là, précisément, je n'en ai pas. Et en plus, je lutte contre.
Voilà. Je dis pas d'idiotie, je pose juste une question. Maintenant, c'est très bien si vous n'avez pas de conflit d'intérêt. Moi, ce que je trouve quand même fou, c'est que depuis deux ans, on a entendu à gaver de médecins, de plateaux, qui visiblement devaient pas avoir trop de boulot dans les hôpitaux, et puis qui sont tout le temps sur les trucs.
Oui, mais là, Benoît,
vous dites n'importe quoi.
Non, que les médecins viennent nous expliquer comment ça fonctionne une pandémie, comment on s'en protège, c'est normal. Là, en ce moment, la guerre en Ukraine, on fait venir des militaires qui viennent expliquer comment on mène la guerre.
Jamais on a besoin d'informations.
Et on leur fait pas le reproche d'être sur un plateau.
Mais bien sûr.
Non, en revanche, pour revenir quand même sur une chose, c'est que tout à l'heure, tu as dit oui, mais l'hôpital, oui, mais on peut pas.
Ça, c'est pas de la faute des Français, on est d'accord.
Au début, je suis d'accord, quand le gouvernement est arrivé, il pouvait dire c'est la faute, ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait, on va tout arranger. Je suis désolé, deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est rien passé dans les hôpitaux, on est d'accord,
donc,
Olivier.
Il avait largement ça, déjà le temps d'essayer de régler le problème. Visiblement, le Ségur de la Santé n'a rien réglé, puisqu'on nous explique qu'il y a toujours des démissions, que c'est tendu, que les gens n'en peuvent plus, etc. C'est pas la faute des Français. Les Français payent beaucoup d'impôts.
Ils savent pas pourquoi.
Que l'État, que la fonction publique, publique hospitalière utilise bien cet argent pour régler le problème, pour mieux augmenter les infirmières, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des brancards dans les couloirs des hôpitaux parce qu'on n'arrive pas à les mettre dans les lits, etc. Et ça, on peut plus aujourd'hui. Là, on rentre dans la troisième année de la pandémie, on peut plus trois ans après nous faire le coup. Vous comprenez,
c'est
l'hôpital
pas le coup
va craquer.
Ouais, c'est pas non, pour ça que c'est pas toi qui joues la liste
de mettre un masque dans les dans le métro, voilà, Olivier. Ça te protège
toi
pas
toi qui joues la liste. Je vais pas quand même t'apprendre ce qu'est quelque chose de.
Mais moi, je suis pas contre le masque. Je suis contre l'obligation.
Olivier, mais c'est pas le sujet.
Chacun fait ce qu'il veut.
Faut-il remettre le masque dans les transports? On n'a pas dit faut-il obliger de.
Non.
C'est faut-il chacun remettre le masque dans les transports?
Mais non, mais
c'est
ton
voisin.
Mais
après lui, il a l'obligation.
Moi, je crois que ce serait plus curieux, quoi.
C'est le taliban du masque, on l'appelle. Didier Giraud.
Non, mais Olivier.
Le chinois,
mais
je m'en
Olivier,
le masque, j'ai porté une fois par semaine.
Factuellement, là,
de l'agriculture.
Non, mais s'il est obligatoire, pour moi, c'est une fois par semaine, c'est pas une grosse.
Non, mais attends, tu racontes une dinguerie, là. S'il est obligatoire, c'est une fois par semaine.
Parce qu'il vient une fois par semaine à Paris.
Moi, le transport en commun, c'est
du fait quand même le retour. Tu ferais aller retour avec le masque.
Ben non, je peux le changer dans le milieu, mais c'est pas la question. C'est pour vous faire comprendre que ça n'influe pas dans mon quotidien. Voilà, c'est tout.
Mais toi, tu prends les transports.
Je pense que c'est un état d'esprit. Moi, je pense qu'on a compris les gestes barrières, que les gens ne savent pas les mains, c'est leur problème. Ils ont qu'à se relever les mains. Enfin, pas non plus.
Ils ont qu'à mettre du gel hydroalcoolique.
C'est surtout parce qu'ils travaillent pas seulement.
Mais moi, je me lavais les mains avant la pandémie. On a toujours appris qu'il fallait se laver les mains, tu vois. Bon, c'est complètement débile. Et les matins, tout le monde sait ce qu'il faut faire. En revanche,
les gens ne font plus.
Il y a un vrai problème, c'est la vaccination des seniors. Et là, devrait mettre le paquet.
Les patients eux-mêmes. Hier, j'avais une patiente qui avait la grippe et qui me disait elle-même qui disait oui mais vous comprenez aussi on porte plus le masque, on fait plus rien, donc évidemment on se contamine davantage. C'est juste la réalité, quoi.
Oui,
c'est juste la réalité. Mais pourquoi
la grippe est plus forte cette année parce qu'on s'est trop protégé avant.
Ça n'a rien à voir.
Si, ça a baissé nos défenses immunitaires.
On va en parler au 32-16, Jérôme, si tu permets, avec Didier qui nous appelle de la Loire. Bonjour Didier.
Ah, un homonyme.
Bonjour les grandes gueules.
Alors, salut, équipe Didier. Oui ou équipe non?
Vous êtes en forme olympique, hein. on était parti sur le sujet masque, port du masque ou pas, ça part dans tous les sens. Moi, je suis effaré de voir le résultat du sondage.
Et oui,
je suis pour le port du masque. Et simplement parce que j'ai simplement envie de faire attention aux gens que j'aime. Simplement. Et aujourd'hui, on a tous dans nos connaissances des gens qui travaillent dans les services hospitaliers. Ils sont tous au bout de leur vie. Donc, si on pouvait ne serait-ce que préserver tous ces services hospitaliers en évitant d'être malade et en mettant un masque, ça serait juste du bon sens, quoi. Les fêtes de Noël approchent, on va recommencer à se réunir. Et si on nous interdit de le faire parce que le taux de contamination monte et explose, eh bien, faudra s'en prendre qu'à nous.
Ça veut dire, Didier, pour vous, par exemple, du côté de Saint-Étienne, quand vous prenez les transports en commun ou quand vous allez dans un magasin, vous faites attention, vous vous lavez les mains.
Oui, bien sûr.
Moi, vous mettez le masque.
Oui. J'ai une boîte de masques dans la voiture. Au travail, il y a des bidons de gel hydroalcoolique de partout. Ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Moi, régulièrement, je me frotte les mains au gel hydroalcoolique. Et aujourd'hui, tout le monde tousse. Les gens qui ont eu le Covid, on a l'impression qu'ils en subissent les conséquences longtemps après. Donc, pour certains, ils portent des masques.
Donc, vous êtes pour une obligation?
Obligation
non,
ou pas?
C'est de la prévention.
Ah, oui.
Et quand vous en parlez autour de vous, qu'est-ce que juste la logique constatez-vous, Didier? Attends.
Que les gens ont plutôt tendance à vouloir se protéger et à vivre tranquille, sans être malade, sans aller voir le médecin. Déjà, faut en trouver un. Donc
voilà.
Et même pour les plus petits, tout à l'heure Olivier parlait que finalement c'était normal que tous les gamins aillent faire de la kiné respiratoire.
Ouais, c'était normal. J'ai dit que
non, mais c'est des réflexions de pays riches, ça.
Non, j'ai dit que l'aventurite, c'est chaque hiver. Celle-ci est visiblement un peu plus rigoureuse.
Sûr,
et qu'il faut apprendre à vivre avec les virus, il faut se protéger.
Mais apprendre à vivre avec les virus, c'est aussi savoir qu'ils sont là et donc protéger à l'instant où ils sont là.
Mais la liberté, c'est plus important que la santé. Mais ça, c'est philosophique.
Mais la liberté, on ne te parle pas d'obligation du port du masque, encore une fois. On te parle de geste civique au moment où le virus circule.
Bah, voilà. Didier, il est pour une obligation,
oui,
hein.
Oui,
Didier,
mais j'ai bien compris que je cristallisais vos.
Didier, il veut qu'on responsabilise tout le monde.
Oui, Didier, il a été payé par l'équipe.
Par exemple, il y a un exemple qui a été payé très bien Didier. Donné par Didier, le gel.
Lequel?
L'autre.
Oui, parce que.
Le gel aujourd'hui, moi, j'appuie machinalement en arrivant à la gare sur le gel, il n'y a plus jamais de gel hydroalcoolique dans
les gares. En plus, il était de mauvaise qualité à la gare.
Et tu peux pas toi-même rien dans les gares. Non, mais besoin ça, qu'on te fournisse du gel. Enfin, toi, question... Non, mais sérieusement, tu vas cesser d'être un enfant, Didier. T'es un adulte. T'as plus besoin qu'on te dise, mets le masque, tu le mets tout seul. On a plus besoin de te dire, monsieur Didier, le gel est là pour vous laver les mains.
Bon,
c'est bon, t'as fini. Moi, je travaille dans le sale, donc je me lave les mains.
Voilà, 7 fois par jour,
ça, c'est pas le problème.
Arrête de vouloir du gel.
J'ai constaté, et c'est ça, je mets à ta connaissance de grand sachant. Je voulais apporter à ta connaissance de grand sachant le fait qu'il y a des gens qui,
qui
ont complètement lâché la rambarde sur le Covid. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais pas aller contrecarrer tes grandes libertés.
L'exemple de type.
Truchot. Enfin non,
l'exemple
de type. Je dis,
vivre en France,
les gens ont lâché la rambarde sur le Covid.
Voilà. L'exemple de type.
Juste, tu permets, Didier. L'exemple type, c'est les cabinets de consultation. Est-ce que vous mettriez un masque quand vous allez consulter et qu'il y a d'autres personnes autour de vous?
Oui.
Qui, elles, de fait, sont malades. Elles viennent là pour ça. Est-ce que vous mettez un masque?
Tu mélanges tout, là?
Bon, je mélange tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans les cabinets de consultation, tu as des panneaux qui te disent ici, le masque est obligatoire. 90% des patients qui arrivent te disent ah, il faut me porter le masque.
Ils ont oublié le masque, c'est une petite piqûre de rappel. Peut-être que si tu rends le masque obligatoire dans les transports,
à vie.
Non,
mais il y aura plein de gens qui vont
se faire vacciner.
C'est fini. Alors, le masque, est-ce qu'on le remet dans les transports parce qu'on est à la 9e vague Covid là, qui monte.
Et voilà.
Non, 62 38. Non.
J'espère que François Braun a regardé le résultat de la consultation.
Estelle Denis, tu le mets dans les transports?
Ah bah bien sûr, je le mets, mais je suis la seule. Et donc tout le monde pense que j'ai le Covid.
Et
parce
on
que j'ai un masque.
Et on te fout la paix.
Et on me fout la paix, ça j'aime bien qu'on me foute la paix, c'est vrai.
Parce que tu veux pas qu'on te reconnaisse.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais enfin, quand je vois plein de gens, bien sûr que je mets le masque. Mais après, ça regarde
pas. Parce qu'elle a son nom sur le masque.
Je suis Estelle Denis.
mais j'aimerais bien que tout le monde le mette. Mais après, je suis contre comme l'obligation.
Didier. Mais Didier, il veut l'obligation.
Ah, bah Didier, il est obligé de tout. Obligé pour le faire.
Ouais. Voilà. Alors.
Bon, alors oui. Nous allons parler d'abord à 14h. Tiens, le télétravail perd du terrain en France. Incroyable. Est-ce qu'on doit s'en réjouir?
Oui.
Eh oui, fini les journées à la maison, en pyjama dans le canapé. Terminé. On va parler également à 13h du gouvernement qui envisage de déployer des radars de covoiturage. Je ne savais même pas que ça existait. L'année prochaine, est-ce que là, ça va trop loin? Et est-ce que vous comprenez le choix du gouvernement? Et puis bien sûr, dans un instant, on parle de la manifestation des bouchers charcutiers aujourd'hui. Les artisans en danger à cause de l'inflation. L'État doit-il encore sortir son carnet de chèques? Et puis on parlera des députés. Ils ne sont pas contents, les députés. Ils sont fatigués. Ils sont trop fatigués. Ils sont au bord du burn-out. Est-ce qu'on doit aménager leur temps de travail? C'est ce qu'ils veulent en tout cas.
32-16 pour réagir avec Estelle. Nous, on se retrouve demain. Demain, nous serons avec Zora Bitant. Elle sera de la partie, c'est le retour de Zora. Et puis, nous serons avec un petit nouveau dans la bande aux côtés de Mehdi Guézard, Alexandre Mafoudi. Alors, aux petits oignons, Alexandre. Hein. C'est un ancien zadiste. Ouais. Il a fait le tour des ZAD. Il est militant associatif. Demain, donc, Zora Bitant.
Et peut-être qu'il va installer une ZAD sur le plateau des GG.
Alexandre Mafoudi, Zora Bitant, Mehdi Guézard.
Content d'être loin.
Promet. Bonne journée et à demain 9h.
Il a les cheveux.
Content d'être loin.
Ouais.
Hein?
Je sais pas.
Olivier, il a les
cheveux. RMC, midi 15h. Estelle Midi.